1980-2021, 40 ans de Radio Libre avec Attitude.
On se replonge dans 40 ans de radio sur Attitude pour marquer cette année 2021. Et nous allons retrouver au téléphone une voix qui nous a accompagnés pendant près de 25 ans en Charente. C'est un événement. Fred Fay, bonjour.
Oui, bonjour Stéphane. Bonjour aux auditeurs.
Quel plaisir de t'entendre à l'antenne.
Ça faisait longtemps hein, que je n'ai pas pris un micro derrière une antenne de radio, oui, effectivement.
Près de 15 ans, me semble-t-il. Il y a eu, évidemment, Fréquence 92 quelques semaines après l'ouverture d'antenne, a suivi Radio Marguerite, et puis tu as été l'un des rares à basculer sur le programme Europe 2, ensuite pour la fin des années 80, toutes les années 90 et quasiment à la moitié des années 2000. On revient au début, c'est quoi? C'est juin, juillet, août 81, ton arrivée à Fréquence 92
Alors moi, mon arrivée date de c'était en juin 81 à Fréquence 92. La radio avait commencé à émettre le 21 mai 81, exactement, le jour de l'investiture de François Mitterrand, puisqu'il était question qu'il libéralise le monopole d'État concernant les radios. Donc les créateurs de Fréquence 92 avaient souhaité respecter cette date pour pas être hors la loi, entre guillemets, même si aucun texte n'était encore voté concernant les radios dites libres. Donc moi j'ai commencé en juin, puisque je terminais en mai, je terminais des études, j'étais à Poitiers, donc j'ai commencé en juin, en commençant derrière les platines et les manettes. Moi, c'était la partie qui m'intéressait le plus au départ.
La partie technique. Et qu'est-ce qui t'a motivé à pousser la porte du studio?
Quand j'étais adolescent, jeune homme, je fréquentais un magasin de musique qui était rue du Sauvage, qui s'appelait Maximum Acoustique, qui n'existe plus. Et comment je jouais de la musique, je jouais de la batterie, les samedis, on se retrouvait avec les copains, on regardait les instruments, on faisait un petit peu le bœuf, on discutait avec l'équipe, on parlait de musique, etc. Et donc, quand cette radio s'est montée, Fréquence 92, le propriétaire du magasin, à l'époque, avait proposé de prêter gratuitement du matériel. Enfin, c'est la version que j'avais à l'époque. Il avait fourni le plateau technique pour faire fonctionner une radio. Comme j'y passais assez souvent, ils m'ont dit « Fred, t'aimes la musique, t'as un peu de culture musicale, est-ce que ça te dirait ?» Voilà, c'est un peu secret pour le moment, mais on va lancer la première radio locale dans le Coutème. Oh, moi j'ai dit « Ok », et puis voilà, donc j'avais terminé mes études, je vivais chez moi et j'ai fait de la radio à Fréquence 92, comme bénévole, hein, je précise bien, parce que... Je faisais, une fois les choses installées, je faisais 7h-14h à l'antenne, en régie à l'antenne.
Et alors, ces premiers mois de radio, comment ça s'est déroulé? J'ai l'impression que l'adhésion des Charentais s'est faite très rapidement pour ce nouveau média, cette véritable révolution en ce qui concerne la communication qui arrivait en 81.
Oui, en fait, nous on a senti que les gens, ils avaient un média qui déjà parlait de leur département, de leur ville. Avec des gens, on avait un numéro de téléphone, c'était le 92 39 39. Donc, je pense qu'on avait eu un petit coup de pouce sur l'attribution du numéro de téléphone aussi. On était là. Les gens pouvaient nous appeler. On avait des jeunes filles, des dames bénévoles qui se relayaient au standard, à l'accueil téléphonique. Au début, on avait un téléphone et puis après, on a augmenté, on a fait monter des lignes groupées pour être plusieurs à pouvoir répondre en même temps. Voilà, les gens étaient... je pense, étaient contents qu'il y ait... des gens d'ici, des gens auxquels on pouvait parler, et puis entendre parler de la région, et puis avoir aussi, je pense, une programmation musicale qui était différente. Parce que moi, une de mes premières préoccupations ou motivations, ça a été de me dire, moi, je veux plus. J'en avais un peu marre d'entendre la programmation des radios dites périphériques. Moi, 18 ans, entendre en boucle sur Annie Cordy, Serge Lama, Carlos, sur RTL ou Europe 1, à l'époque, c'était de la musique pour ma mère, quoi. C'était pas... Moi, je rêvais, j'aimais le rock, voilà. Il y avait quelques radios, il y avait quelques radios qui accordaient de la place à ces programmations-là, mais c'est dans des émissions du soir. Nicolas Hulot, je me souviens, on écoutait ses émissions. Il faisait des émissions qui parlaient à la fois de moto et de rock. Et là, sur Radio France ou France Inter à l'époque, en chocolat.
C'est comme ça que sont arrivées justement ces émissions très diversifiées, thématisées, dédiées au rock, mais également à la musique classique. Je sais que notamment le week-end, l'accordéon était très présent sur Fréquence 92.
Absolument, oui, on avait des passionnés de musique, parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, ce que peut-être nos plus jeunes amis auditeurs ne mesurent pas, c'est que pour faire une radio au-delà du matériel, des platines, magnétophones, etc., un émetteur évidemment, il nous fallait, la matière première de la radio, c'était le disque. C'est-à-dire que nous, quand on a lancé cette radio, on avait quelques cartons de vinyle que des gens nous avaient prêtés, que certaines personnes qui étaient impliquées dans la radio, ils nous avaient donné leur stock. Alors ça allait, il y avait du Stan Getz, il y avait de la musique du jazz, donc de la musique classique, il y avait l'intégrale de Trianne, on avait voilà, mais aussi du Véronique Sanson, des choses comme ça, mais au fur et à mesure, les auditeurs nous appelaient, disaient oh, « bah, j'ai un carton de 45 tours, voilà, je vais vous le donner, comme ça vous piocherez dedans, j'entendrai peut-être des chansons que j'aime, etc. » Puisqu'on n'avait aucune... En matière de programmation, aujourd'hui en radio, c'est devenu une science quand même, enfin une science... Oui, il y a des méthodes quand même très subtiles pour calculer et cibler une programmation en fonction de son public. Nous, au début, on s'en foutait hein, de savoir s'il fallait mettre un top après le flash info ou si tout ça. On n'avait aucune notion de ces règles de programmation qui d'ailleurs, le plus souvent, après pour les radios FM, ont été transcrites et héritées de ce qui se faisait aux États-Unis dans un premier temps. Pour répondre à ta question, effectivement, on avait, pour parler d'accordéon, mais il fallait des gens qui aient des disques d'accordéon et qui connaissent l'accordéon. C'est aussi bête que ça. Quand il y avait des émissions de jazz rock ou de musique du Maghreb, il fallait qu'il y ait des gens qui aient ces morceaux-là à présenter, à passer pour les auditeurs. Parce que, effectivement, une seule personne, un seul animateur, juste avec ses connaissances et sa culture musicale, il ne peut pas embrasser tous les styles et connaître tous les styles pour en parler et avoir de l'expérience et bien sûr le matériel sonore, puisque bon voilà, nous on a vite rencontré des gens, des passionnés comme Bernard Desmoulins ou je me rappelle plus son nom, et Christian, et à l'époque il travaillait dans une banque, mais c'est des gars, ils avaient tellement de 45 tours qu'il y en avait sous les lits, il y en avait partout, ils savaient plus où mettre leurs disques tellement qu'ils étaient des passionnés, des collectionneurs. Ceux-là, ils sont venus enrichir le fond de discothèque de la radio, puisqu'on était très pauvres. Au début, c'était ça, hein, le handicap, c'était d'avoir le... Parce qu'aujourd'hui, avec le streaming, voilà, nos jeunes auditeurs, ils font des recherches par mots-clés. On a le streaming, YouTube, voilà, mais en 81... Eh ben, si on n'avait pas le disque, si on n'avait pas le 45 tours ou le 33 tours, le morceau, on ne pouvait pas le passer. La première contrainte à la programmation, c'est se dire « Ah ben, j'aurais bien aimé vous passer ça, mais je ne l'ai pas en magasin, entre guillemets. Voilà. » Donc, ça paraît tout bête aujourd'hui, mais il fallait avoir le matériel sonore et les passionnés qui avaient des collections et les auditeurs qui nous en donnaient. Et le regretté Marcel Bureau, qui après a monté Radio Cool Jean, qui à l'époque était dans le disco mobile, etc., nous amenait des pleines caisses de 45 tours pour nous faire plaisir, pour qu'on les partage, voilà, avec avec des gars que personne connaissait souvent, mais voilà.
Et puis ensuite, il y a eu Radio Marguerite, très peu de temps après, puisque Fréquence 92 a duré quelques mois.
Un peu plus, presque un an, Fréquence 92 a duré jusqu'en... Alors de mémoire, je dirais qu'on a dû arrêter fin avril, il a fallu rendre les clés du bâtiment en mai 82. Radio Marguerite, suite à cet échec, parce que en fait cette radio Fréquence 92 était portée par la seule municipalité d'Angoulême, qui nous Jean-Michel Boucheron à l'époque, qui avait prêté les locaux à la radio, qui payait les factures, c'était la ville qui réglait les factures d'eau et d'électricité. Un jour, suite à des désaccords entre la radio et Monsieur le maire, il a dit qu'il arrêtait de payer le loyer pour la radio. Il a fallu qu'on quitte les locaux aux alentours du mois de mai. Voilà. Donc suite à cet échec, des gens se sont dit mais c'était pas mal cette expérience. Il faut dire que dans le même temps, après Fréquence 92, il y avait le journal Charente Libre avait quelques mois après lancé une radio qui s'appelait Radio 100, où il y avait un Christophe Hénard qui était journaliste, qui avait travaillé chez nous comme animateur, qui avait beaucoup de bagouilles et qui travaillait pour la radio de Charente Libre. Ils se sont rendus compte que eux, ils passaient une bande qui était interrompue par des flashs infos avec un vrai journaliste, et nous on était un peu des gens de Fréquence 92, on était une bande de banquignols, mais on était une trentaine à passer des musiques et à être en direct de 7h à minuit à peu près tous les jours. Donc de cet échec de Fréquence 92 et puis de cette radio de Charente Libre, ils ont décidé, à la fois la municipalité,
quelques partenaires.
Il y a eu un pool de partenaires. Donc, de mémoire, il y avait la Charente Libre, le Crédit Agricole, la Chambre de Commerce, la ville d'Angoulême. Il y avait 4 ou 5 partenaires qui, en fait, sont mis autour d'une table en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une radio généraliste, pluraliste d'opinion, avec la caution du journal Charente Libre pour l'information. Radio Marguerite a dû commencer aux alentours du mois de septembre 82.
Et là, une nouvelle aventure s'est construite avec des anciennes Fréquences 92, mais également des nouveaux, une nouvelle grille d'antenne. Je crois que là, cette fois-ci, l'émission était 24 heures sur 24.
Oui, alors à ce moment-là, on a une nouvelle grille s'est mise en place, puisque peut-être pas dès le début, mais Radio Marguerite a eu jusqu'à 5 journalistes, pour la plupart encartés, en rotation à l'antenne. Quasiment 7 jours sur 7. Donc on faisait des émissions, on était en direct de 6h du matin à 22h voire minuit. Et après on mettait de minuit à 6h, on avait ce qu'on appelait une bande de nuit avec un magnéto auto-reverse qui comblait avec un programme musical non-stop pour la nuit. Moi j'ai fait partie des animateurs recrutés, ce qu'on appelait permanents, qui étaient salariés de l'association, puisque Radio Marguerite était une radio associative. Il y avait le regretté Jean-Louis Mathieu, qui à l'époque était DJ au King's Club, qui était quelqu'un de très connu, qui avait beaucoup d'amis sur Angoulême. C'était aussi un passionné de bagnole. Il a ensuite, pendant des années, fait les commentaires du circuit des remparts. Et donc c'est un peu avec lui que j'ai débuté, puisqu'on avait une vingtaine d'années de différence. Jean-Louis a été mon papa de radio, on va dire.
L'information très présente dès le départ sur Radio Marguerite, on l'a compris avec ce partenariat Charente Libre, notamment le matin, des rendez-vous d'information toutes les demi-heures, des reportages, des invités, enfin c'était très fourni.
Oui, ça a été la volonté, c'est-à-dire sur le 6-9, la tranche reine de la matinale radio, Ça n'a pas beaucoup changé. C'était un rendez-vous toutes les demi-heures avec la capacité, avec des sons, des reportages. Donc, on avait les journalistes faisaient des interviews la veille, les transféraient sur bande, sur bobino, comme on dit, faisaient un montage avec. On avait des sujets. Moi, j'animais l'antenne le matin de 6h à 9h, et donc j'étais en binôme avec un journaliste qui lançait des sujets avec des reportages faits par toute l'équipe. Mais on avait voilà, on avait une capacité de se déplacer à peu près dans toute la Charente. Il y avait de l'info, il y avait du divertissement. Mais il y avait effectivement des journalistes qui étaient sortis d'école, diplômés, encartés pour la plupart, et qui faisaient un travail de terrain. Je me rappelle que même à la grande époque, on avait le telex de l'agence France Presse à l'étage de la rédaction. Ce qui fait que c'était, pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, c'était quand il n'y avait pas les fils info, le Telex, c'était comme une machine, une grosse machine à écrire, mais qui était alimentée par une agence qui, dès qu'il y avait une nouvelle nationale ou internationale d'importance, le communiquait et l'envoyait dans toutes les rédactions.
C'est ça, via les lignes téléphoniques et les messages arrivaient et s'imprimaient en rédaction. Ouais.
C'est ça, moi je me souviens très bien, par exemple, un exemple concret, on a dû être parmi les premiers de France à annoncer la mort de Brassens. C'est tombé par Telex, alors je saurais plus te dire si c'était le matin, le milieu, la journée, mais les journaux du soir, tout ce qui était presse écrite ne pouvait titrer que le lendemain. Les journaux télévisés ne pouvaient pas avant le journal de 20h. Il n'y avait pas d'émission à la télé, il n'y avait pas de fil info,
Absolument.
Des chaînes d'info. Donc nous, on était sur certains événements, on était en capacité d'être les premiers à l'annoncer, même si voilà, annoncer le décès de Georges Brassens sur une radio locale. C'était pas toute la France, mais grâce à cette machine, et qui était un vrai investissement, puisque c'est pour dire qu'il y avait une volonté d'avoir de l'info recoupée, vérifiée, etc., avec des journalistes qui respectaient là, une certaine charte et déontologie du métier.
Effectivement, c'est passionnant. C'est Frédéric Fay qui est à l'antenne avec nous sur Attitude pour raconter ses années radio, pour se remémorer de ses premières radios libres. Fred, c'est compliqué d'expliquer, mais l'audience notamment de cette radio a très vite grossi, s'est très vite développée avec un nombre d'auditeurs très important dans le département, qui vous suivait notamment pour les émissions interactives, mais c'était l'une des radios de référence.
Peut-être oui, avec le recul. Alors, par modestie, je sais pas si nous on se remettait en question, mais c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait quand même aujourd'hui on dirait un buzz, mais il y avait un élan de sympathie. Et je pense que oui, modestement, on avait. Les sondages n'existaient pas vraiment au début des radios, mais on a oscillé entre 10-12% des auditeurs du département, donc ça pouvait faire 30 000 auditeurs jour à peu près, et on a eu des pointes après dans les beaux jours d'Europe 2, on a eu des pointes un peu même au-delà.
Frédéric Fay avec nous sur Attitude ce lundi soir. On va marquer une pause. Fred, on va écouter peut-être l'un de tes coups de cœur de l'époque, Queen, Don't Stop Me Now. Et nous allons continuer ensemble de nous remémorer ces années radio sur Attitude. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
...1980... ...2021... ...40 ans de radio libre... ...avec Attitude.
Fred Fay est avec moi au téléphone. Fred a officié presque dès le départ de Fréquence 92, puis ensuite Radio Marguerite et les années Europe 2, Fred. Bah justement, en 87, là, c'est la grande transition où la radio devient Radio Marguerite, programme Europe 2, avec l'arrivée de ce programme national, encore des tranches locales, notamment les tranches d'information. Et donc, tu as suivi, toi, cette transformation de la radio.
Oui, alors j'ai suivi. C'est vrai que cette transformation, elle a fait, il y a eu pas mal de dégâts collatéraux, parce que à un moment, quand nous on reçoit une émission, en fait, la télé, la radio par satellite, c'est Énergie qui a créé ça avant, et ça a donné des envies aux grands groupes de radiodiffusion tels Europe 1, RTL, de créer un réseau de radio, en se disant que si on a un animateur à Paris, qu'on paye un animateur et qu'on envoie la même émission dans toutes les villes de France, on fait des économies d'échelle. Et donc, à partir du moment où on est passé Europe 2, tous les bénévoles qui travaillaient, il a fallu leur faire comprendre que pour eux, c'était fini. Ceux qui travaillaient le soir, la nuit, les samedis, les dimanches, ceux qui animaient le hit des clubs, ils auraient pu le laisser passer pour aller dans les discothèques, entrer gratuit dans les discothèques le samedi. Et donc, il a fallu, effectivement, ça a changé complètement les modes de fonctionnement, puisqu'après, on était tributaire de créneaux horaires, ce qu'on appelait des fenêtres de décrochage, pour y placer les infos locales et puis la publicité locale, puisque la radio était devenue, entre-temps, en passant à Europe 2, la radio était devenue une SARL et avait abandonné le statut associatif.
Tu as conservé forcément l'émission technique et c'est toi qui as assuré la plupart des émissions locales, de l'animation de ces émissions-là ?
Oui, alors après, les choses entre 87 et 2005, les choses ont beaucoup évolué parce que au fur et à mesure, la partie locale, le temps d'antenne locale qui nous était alloué par le réseau national, le temps d'antenne a fondu très rapidement. Au début, on avait des créneaux de 15 minutes pour faire des infos, de la pub, de l'info pratique, de la météo. On avait voilà, après on est passé à 12 et puis à 9 et puis à la fin c'était 3 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Mais effectivement on a suivi toutes ces évolutions, puisqu'au début on était passé d'un support 100% analogique, vinyle, cassette, bande, et au fur et à mesure où la radio a évolué, on a commencé à entrer dans l'ère du numérique. Alors il y en a certains qui se sentaient pas non plus capables de passer ce cap. Et donc, effectivement, à partir du moment où il y a un programme qui est fait de Paris, moi, à la fin, sur Europe 2, j'étais le seul, j'étais réalisateur, donc j'animais une tranche locale. Alors, dans les derniers temps, je ne sais plus si c'était 13h, 16h, ou enfin bon, les plages ont un peu bougé, mais le reste du temps, nous, on était là pour fabriquer les pubs, on fabriquait les publicités, on alimentait les ordinateurs qui passaient ces publicités quand ils recevaient le top du satellite, etc., etc.
Et encore de l'info présente, heureusement, notamment le matin et à la mi-journée pour laisser place, oui, pleinement au local.
Oui, oui, alors on avait après, c'est un peu loin, mais de mémoire, on avait des rendez-vous toutes les demi-heures le matin. Alors nous, on avait choisi de 7 à 9, un rendez-vous par demi-heure de... ou 6h30, le premier flash info était à 6h30. Et après, on avait juste un journal le soir à 18h30. Donc une synthèse de ce qui s'était passé la journée. On avait un journal de 3 minutes à 18h30. Donc c'est vrai que quand on a connu des journaux d'info locales qui... qui dépassait les 15 minutes, passait à 3, même si on avait appris à être plus synthétique, à moins perdre de temps à l'antenne, 3 minutes pour faire le tour des infos d'un département, d'une ville, d'une région, c'est... Bon, pour nous, c'était, on trouvait que c'était un peu mince.
Ouais, voilà. C'était très rapide. Tout à l'heure, tu parlais de programmation, de spontanéité et le fait d'amener ses propres disques. Là, quand le, notamment dans les années 90, quand le programme s'est bien installé, c'était plus du tout la même chose. Tu avais en main, me semble-t-il, une playlist avec des titres à diffuser à telle heure, et tu relayais ce programme national fabriqué en local.
C'est ça. C'est-à-dire que pour que les radios puissent, alors c'est un peu du business, mais pour que les radios puissent vendre de la publicité locale, il fallait qu'elles puissent prouver à l'organisme de régulation. Bon, il a changé plusieurs fois de nom, mais voilà, la haute autorité, le CSA, etc. Il fallait pouvoir prouver qu'on réalisait par nous-mêmes un certain temps d'antenne locale qui devait être à l'époque 20%. Du temps d'antenne sur une journée, pas sur 24 heures, mais 20% de 6 heures à 20 heures.
Oui, oui, oui.
Donc, il fallait réaliser un certain quota de programmes locaux pour avoir le droit de vendre et de commercialiser de la publicité locale, parce que les radios étant des opérateurs privés, c'était les recettes publicitaires qui payaient le fonctionnement de la radio et les salaires des gens qui travaillaient. C'était plus une association avec des généreux donateurs comme au début de la radio. Il fallait l'argent et c'était le nerf de la guerre. Donc, il fallait faire de l'audience, vendre des publicités, fallait que les publicités soient bien foutues, qu'elles plaisent aux annonceurs, ou que les annonceurs aient envie d'avoir une publicité chez nous. Et c'était, voilà, c'était des combats et des poussées d'adrénaline pratiquement tous les jours quand on avait le syndrome de la feuille blanche au moment de créer des publicités locales.
1980, 2021, 40 ans de radio libre avec Attitude.
Ce lundi soir, on met en valeur les premières radios libres sur Attitude. On parle de ces premières années de cette épopée de la FM. Fred Fay est au téléphone. Fred, en 25 ans, tu as forcément été le témoin de l'évolution technique du premier plateau de fréquence 92, la quasi-numérisation d'Europe 2 en 2005. Et puis ça a continué depuis, mais l'évolution a été absolument considérable.
Il faut dire qu'aujourd'hui... Quand on réfléchit au prix que coûtait en francs de l'époque un plateau de radio, aujourd'hui, avec l'informatique et des cartes son du home studio, on peut se faire un studio quasi professionnel pour la moitié, voire le quart du prix que coûtait un studio de radio de l'époque. Donc on a commencé... au tout début, on a commencé à faire des montages sur cassette. Alors, il fallait qu'on ait des magnétos. On enregistrait sur des magnétos cassettes. On mettait la pause dès qu'arrivait la partie musicale qu'on voulait pas garder. Et puis, on lançait un disque. On lâchait la pause au moment où la partie musicale qui nous intéresse. Il fallait un magnéto qu'on n'entende pas couiner, comme on dit. On n'entende pas le cloque lié au fait qu'on lâche la pause, qu'on la remette.
Enfin, c'est bon, ça.
C'était des trucs de fous. Hein. On faisait des trucs de fous, c'était de la merde, mais aujourd'hui, selon les critères techniques, c'était des montages de rigolo. Mais on avait ces outils-là. Après, on est passé sur des magnétophones à bande. Mais un magnétophone à bande, pour resituer aujourd'hui, ça coûterait 3000, hors taxe, ça coûterait 3000, oui, autour de 3000 euros. Un magnétophone à bande. Alors, quand il en faut trois dans un studio, trois platines, une table de mixage qui fait 1,50 m de large, on était quand même dans des prix pour des petites structures, voilà, des choses qui coûtaient cher. Et puis petit à petit, effectivement, on est passé du vinyle au premier CD. Voilà, ceux qui ont connu les CD, quand Philips a lancé son premier lecteur, c'était un truc à quatre chiffres en francs. Enfin, c'était Tout ça coûtait extrêmement cher. Les premiers ordinateurs coûtaient cher. Nous, on a commencé à faire des systèmes automatisés à base de matériel Apple, Macintosh. Bon, c'était des matériels utilisés surtout par les graphistes à l'époque. Pour des questions de stabilité. Et nous, en radio, on a commencé aussi à utiliser ces matériels, mais qui coûtaient très très cher. Et puis, il a fallu, oui, effectivement, apprendre, au lieu d'utiliser une paire de ciseaux, couper de la bande, faire du montage virtuel. Mais voilà, après, les outils informatiques sont tellement puissants que quand on a fait du montage virtuel avec des ciseaux sur une bande, l'informatique, c'est de la rigolade. C'est tellement puissant, c'est tellement... c'est-à-dire que pour résumer, pour un auditeur, on enregistre un bout de chanson sur une bande en disant ça va être notre jingle. Voilà, je résume, je suis un exemple pratique. On enregistre le bout de bande, et une fois qu'on a fait l'enregistrement, on isole la partie avec des ciseaux, et si on coupe un centimètre à côté, trop court, on a perdu le bout de bande. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remet la bande sur le magnéto, on réenregistre le passage, et on essaie cette fois avec les ciseaux de pas trop tailler dedans. Parce que les cheveux, c'est comme les cheveux, si c'est coupé trop court, ça peut pas, on ne peut pas rallonger. Et donc, avec l'informatique, on a découvert des outils où on pouvait couper, faire une do, corriger, recorriger, réessayer, essayer des dizaines, des centaines de coupes, de mixages, etc. Et tout ça, on conservait l'original, on pouvait effacer, revenir en arrière, revenir sur le bon fichier, réparer les erreurs, alors qu'avec la bande, on passait des temps infinis pour faire des choses, voilà, pour faire des montages. Mais je sais plus, quand on travaillait avec Jean-Luc de l'étage pour faire des pubs, pour donner un ordre d'idée, les premières pubs 30 secondes, on délirait tellement, on était 2 jours et demi pour faire une pub. En étant du temps où on était un peu bénévole et tout ça, donc voilà, aujourd'hui, économiquement, quelqu'un qui met 2 jours et demi pour faire une pub de 30 secondes, il n'a plus de boulot, hein. C'est, il y a longtemps que économiquement, c'est comme si on vous disait qu'aujourd'hui, Renault, il faut 6 semaines pour monter une voiture. Donc ça, c'est absolument pas possible.
Et donc, tu as été le dernier à fermer la porte d'Europe 2 quand le réseau a définitivement fermé le décrochage d'Angoulême.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas été complètement fermé le jour de mon départ, parce que bon, donc il y a eu un changement de local, et puis je crois que ça a duré quelques mois avant qu'ils abandonnent définitivement la fréquence. Voilà.
Ce qui est important de souligner, Fred, notamment, surtout dans cette première période des années 80, 81, 82, jusqu'en 86, 87, c'est le nombre incroyable de radios qui se sont créées à Angoulême, mais également en Charente et dans des endroits que l'on ne soupçonne même pas peut-être aujourd'hui.
Oui, absolument. Nous, on avait sympathisé avec Marcel Bureau qui avait créé une radio à Radio Cool Genre, mais c'est... En plus, voilà, Coulgen, ça a toujours été le cauchemar du département. Il y a eu des manifestations de soutien pour la radio qui ont réuni plusieurs centaines, voire 1,5 million de personnes dans un bled comme Coulgen. Ça paraît Libération, enfin la presse nationale a parlé de Coulgen pour ces histoires de radio. Enfin, et il y avait un passionné, Marcel Bureau, qui faisait à peu près tout lui-même, qui avait monté cette radio dans une sorte de caravane. On avait été un jour lui rendre visite avec Jean-Louis Mathieu, on avait passé un moment absolument incroyable. Alors ça irritait certains parce que il n'y avait pas de journaliste, donc lui il prenait la Charente libre, hein, et puis il lisait à l'antenne sans verser des droits, enfin, évidemment, à la Charente libre. Il lisait les articles et les titres de la Charente libre, on entendait tourner les pages au micro, voilà. Donc c'est vrai que les sources d'information pour les journalistes n'étaient pas non plus très très diversifiées, mais après, nous, les journalistes, même s'ils lisaient la presse régionale, s'ils lisaient la presse nationale, ils réécrivaient, ils choisissaient les sujets, ils réécrivaient les articles, ils donnaient leur touche personnelle à la présentation des infos. Bon voilà. Donc il y a eu Radio Coup de Jean. Après, j'ai plus trop l'historique. Je pense qu'il y a de plus fins historiens de l'AFM en Charente que moi qui pourront te répondre. Il y a eu des radios sont créées, il y a eu des rivalités politiques quand Fréquence 92 qui était la radio du maire Jean-Michel Boucheron, alors qui était qui avait l'étiquette socialiste, je dis ça pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, on a vu arriver des radios avec des financements, des soutiens privés, qui voulaient être des adversaires politiques du maire d'Angoulême, et des radios se sont créées pour proposer une autre forme d'expression. Voilà, il y avait du débat, il y avait des oppositions aussi politiques dans le monde de la radio locale sur Angoulême. Il y a eu ce genre d'opposition là. Oui.
Fred, merci beaucoup de ce bon moment passé ensemble pour raconter ces souvenirs.
Mais de rien, Stéphane. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et d'en reparler avec quelques anciens aussi, voilà, qui je pense auront de plein de choses intéressantes à te raconter également.
Eh bien, écoute, on va en entendre d'autres là après toi au téléphone pour des conditions surtout sanitaires, hein, puisque on aurait dû être en studio, mais on va le reporter évidemment à l'automne et on va organiser une émission avec la présence de nombreux acteurs historiques de cette époque, années 80, années 90. À bientôt, Fred.
Oui, à bientôt, Stéphane. Merci à toi. Merci.